titre du journal.
Deux jours après la manifestation anti-G7, l'heure est au bilan du dispositif de maintien de l'ordre. Le G7 qui bat son plein et le Parlement fédéral réhabilite les Suisses qui ont soutenu les résistants français durant la Seconde Guerre mondiale.
Le journal avec Julie Marty. Julie, bonjour.
Bonjour Evan, bonjour à toutes et à tous. Mais avant de développer ces titres, on revient sur ce drame. Sur un chantier, un ouvrier a perdu la vie hier matin sur le chantier de la haute école de Saint-Évaux à Chavannes près Renan. Il est occupé à effectuer des tâches de nettoyage au premier étage d'un des bâtiments avant de faire une chute de plusieurs mètres. Et malgré l'arrivée rapide des secours, l'homme est décédé sur place. Le ministère public a ouvert une procédure pénale.
Près de 550 personnes ont été appréhendées lors de la manifestation anti-G7 à Genève.
Et 28 ont été acheminées dans les locaux de police pour des vérifications complémentaires. Parmi elles, la députée vaudoise de gauche radicale, Mathilde Maranda. Elle dit avoir été interpellée car elle n'avait pas ses papiers d'identité sur elle. Elle faisait partie des centaines de personnes qui ont été encerclées par la police. Une nasse qui a duré toute la nuit avec des contrôles et des évacuations au compte-gouttes. Parmi les personnes bloquées se trouvaient également des passants qui n'avaient rien à voir avec la manifestation. Écoutez Mathilde Maranda.
Ce que je dénonce aujourd'hui, c'est un dispositif disproportionné et malmené. Moi, je comprends pas comment on a pu mobiliser toutes les forces de police de la Suisse, voire de la France voisine, pour arriver à une situation où on laisse des personnes toute la nuit dormir sur du bitume, sans eau, sans nourriture, sans habits, pour avoir assez chaud, avec une possibilité qui aurait dû être beaucoup plus rapide de les contrôler. C'est-à-dire que ces personnes dont je faisais partie étaient tout à fait coopérantes. Moi, à 19h30, j'ai dit aux agents qu'ils pouvaient bien me contrôler, que je pouvais, que j'avais rien à cacher, qu'on pouvait me contrôler, etc. Je comprends pas comment ce dispositif a duré autant. Pour moi, ça peut pas être autre chose qu'une intimidation politique.
Des propos recueillis par Yann Rossier. Trois personnes ont également été arrêtées et auditionnées avant d'être relâchées. Deux sont soupçonnées d'avoir tiré des engins pyrotechniques, une autre d'avoir endommagé un véhicule de police. De leur côté, plusieurs manifestants dénoncent un usage excessif de gaz lacrymogène. Que répondent les forces de l'ordre? Alexandre Braillet, responsable de la communication de la police genevoise.
600 personnes déterminées, c'est pas tous les jours. On sait qu'ils profitent des cortèges avec quand même un nombre conséquent de personnes pour se dissimuler dans la masse. On sait qu'ils sont organisés, qu'une fois les déprédations faites, ils vont aller se disperser, ils vont changer de vêtements. Et c'est là qu'il faut amener une clarification, je pense, pour la population, en tout cas ceux qui se retrouvaient par la perle du lac, qui comprenaient pas forcément la manœuvre. J'étais sur place, je peux vous dire que ça a duré plus d'une heure de pétards, de tirs d'engins pyrotechniques, de gaz lacrymogène. Donc celui qui n'avait pas senti qu'il y avait un petit problème dans le coin, qu'il n'avait pas entendu non plus les sommations, c'est qu'il était pas là, on va dire, hein, parce que tout était très audible.
Des propos recueillis par Laurie Sely et Solène Revillard. Le Conseil d'État genevois juge globalement positif le dispositif de sécurité mis en place autour du G7. Il reconnaît des violences et des dégâts matériels lors de la manifestation de dimanche, mais estime que ces incidents sont restés limités.
Les dirigeants du G7 sont de leur côté arrivés au compte-gouttes hier à Genève.
Guy Parmelin a dans un premier temps accueilli la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le Premier ministre canadien Mark Carney. Et puis après 16h, c'est l'avion Air Force One de Donald Trump qui s'est posé sur le tarmac genevois. Le canton de Vaud s'est majoritairement opposé à l'initiative Pas de Suisse à 10 millions ce dimanche dans les urnes. Le texte a été rejeté à 64%. Mais l'initiative UDC a convaincu certaines extrémités du canton. D'après 24 heures, sur les 300 communes vaudoises, 50 se sont prononcées en faveur du texte de l'UDC. Parmi elles, 41 sont situées dans les districts du Nord-Vaudois, de la Broye et d'Aigle. La criminalité transfrontalière et le boom démographique dans le Chablais pourraient avoir joué un rôle.
Le Parlement fédéral réhabilite les Suisses qui ont soutenu les résistants français durant la Seconde Guerre mondiale.
Cette réhabilitation sans indemnité et sans grâce concerne 466 combattants. Le Conseil national l'avait décidé en mars. Le Conseil des États l'a confirmé hier. Pourquoi avoir attendu 80 ans pour réhabiliter les résistants pour la liberté en Europe? Le conseiller aux États neuchâtelois, Fabien Fiva.
À l'époque, il manquait une vraie base scientifique historique sur les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont été condamnés en Suisse. Et c'est chose faite puisqu'il y a eu un projet d'un historien historien suisse-alémanique soutenu par le Fonds National Scientifique qui en fait fait la biographie de ces presque 500 résistants qui ont combattu dans l'armée de libération française.
C'est une reconnaissance très symbolique, pas d'indemnisation, on ne casse pas les jugements qui les ont condamnés.
La plupart étaient condamnés sur la base du code pénal militaire qui interdit encore et toujours aujourd'hui, sauf autorisation du Conseil fédéral, des Suisses de combattre dans une armée étrangère. Elles ont été condamnées la plupart à ce titre-là. C'est pour ça qu'on les réhabilite en reconnaissant qu'ils ont combattu pour la démocratie, pour la liberté en Europe. Mais par contre, on ne veut pas donner des idées à d'autres personnes. On a aujourd'hui des personnes qui combattent en Ukraine. Elles seront jugées lorsqu'elles reviennent en Suisse. Et c'est juste de le faire comme ça.
Des propos recueillis par Serge Jubin.
En foot, pluie de matchs nuls.
La Belgique a dû se contenter d'un nul 1-1 face à l'Égypte dans la première journée du groupe G de la Coupe du Monde. Même résultat entre l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. L'Iran et la Nouvelle-Zélande se sont aussi quittés sur un nul, mais 2-2. Et de son côté, le Cap-Vert a créé la surprise pour le premier match de son histoire dans une Coupe du Monde. Il a accroché l'Espagne 0-0.